Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Début juillet 2009, eut lieu au British Council de Paris un colloque en hommage aux 50 ans de la parution du Festin nu de William Burroughs, proposé par l'University of London de Paris. Occasion pour les Nuits de France Culture de vous donner à réentendre un Surpris par la nuit consacré en 2001 à William Burroughs, les derniers journaux.
Surpris par la nuit.
William Seward Burroughs, 5 février 1914, Saint-Louis, Missouri, 2 août 1997, à Lawrence, Kansas, USA. Attaque cardiaque. Une émission de Patrick Amine et Jacques Taroni.
Un couple de banlieusards dans la chambre du gamin, au mur, des bannières scolaires. Ils lisent une lettre. « Chère maman, cher papa, je pars, je vais rejoindre les garçons sauvages. Quand vous lirez ceci, je serai déjà loin. Johnny. » Partout en Amérique, des gosses comme Johnny quittent leur patrie et le grand héritage américain, subjugués par les promesses empoisonnées de Moscou. Ils sont attirés par une vie submergée par le vice et la drogue. Je vous dis que là où règne l'anarchie, le vice et l'infâme corruption, s'élève le capuchon enflé du cobra pour lancer son venin sur tout ce que nous tenons pour sacré. Le cœur même de l'Amérique et son âme sont menacés. Pouvons-nous ne pas prendre parti lâchement lorsque notre jeunesse, l'âme même des États-Unis d'Amérique, s'enfuit dans les égouts des pays étrangers ? Pouvons-nous garder notre sang-froid lorsque la puanteur de la corruption s'approche de plus en plus près de nos frontières ? L'auditoire tousse, des gens se couvrent le visage avec leurs mouchoirs. Ce fléau s'étend dans toutes les directions, aussi meurtrier que n'importe quoi en ce bas monde. Je donne personnellement 10 millions de dollars pour lancer le corps expéditionnaire à l'assaut de cette pourriture et pour écraser l'obscénité une bonne fois pour toutes.
William Burroughs publie Le Festin nu en 1959 à Paris, chez Olympia Press, et plus tard aux États-Unis. Il écrira La machine molle, Le ticket qui explosa, Nova Express, Les garçons sauvages, Les cités de la nuit écarlate, La révolution électronique, Parage des voix mortes, Lettres de Tanger, Havre des saints et des essais divers. Il rédige divers textes de chansons pour des musiciens et compositeurs anglo-saxons. Il influence notamment des chanteurs de rock, des jazzmen et toute une génération de peintres des années 80. Brian Gysing, lui ayant répété que la littérature avait 50 ans de retard sur la peinture, puisque cette dernière utilisait déjà les techniques de collage et de pliage, Burroughs s'est alors lancé dans ses innombrables variations de cut-up. Il est devenu une figure emblématique pour tout un pan de l'histoire de la littérature de la deuxième partie du XXe siècle. No one needs anyone, they don't even just pretend. Jean-Jacques Lebel.
Il y avait une bagarre permanente entre Ginsberg et Gysing, qui tous les deux avaient été des amants de William, et tous les deux voulaient être celui qui traduirait en termes acceptables pour un éditeur le déjeuner nu, le festin nu. Hein, parce que c'était un scrapbook, c'était un brouillon extraordinaire que Gévaudan a d'ailleurs publié en facsimilé, où il y avait des morceaux de photos prélevés dans les magazines, des phrases, des collages, des papiers collés de toutes sortes. C'était une magnifique œuvre d'art schwitterienne, mais c'était difficile à considérer que c'était un manuscrit publiable. Alors Ginsberg, et d'un côté et Brian de l'autre, tapaient à la machine pour essayer de rendre ça, sinon linéaire, du moins publiable. Et Girodias, qui s'est vanté d'avoir découvert Burroughs, en fait, l'a fait à son corps défendant, qu'elle ne voulait absolument pas le publier. Ce livre a été refusé par Ferlinghetti, comme vous savez, qui l'a trouvé trop plein de sexe et trop plein de violence, et a renvoyé le manuscrit. Et quand Corso avait un contrat pour American Express chez Girodias, il lui a fait un chantage en lui disant... Si tu veux mon bouquin, tu dois signer aussi un contrat avec Burroughs. L'autre ne voulait absolument pas. Il avait la trouille totale de l'homosexualité, de la pédophilie, de la drogue, de tout ça. Il voyait ça comme un enfer, comme un éditeur bourgeois normal, normalisé. Et finalement, on a dû faire un sit-in dans son bureau pour l'obliger. On est arrivé dans son bureau au premier étage de la rue Saint-Séverin, on s'est assis, on a fermé la porte à clé, on a jeté la clé par la fenêtre, on a dit « tu sortiras pas d'ici tant que tu n'auras pas signé un contrat avec William Burroughs », et finalement on l'a obligé. Et après, il a dit à la télé qu'il est « ah, c'est moi qui ai découvert William Burroughs », quelle blague!
Michel Brodeau.
Il avait toujours un petit chapeau, il lui arrivait d'avoir une canne pour se défendre, plusieurs armes. Là où je l'ai vu, à Londres c'était un appartement banal, à New York 10 ans plus tard c'était dans la Bowery. La Bowery c'était autrefois le quartier des théâtres, c'est après celui des clochards, c'est dans le sud de la ville. Et c'est, il y avait une sorte de gymnase qu'il avait converti en appartement, sans fenêtre, avec des néons et des tables en fer. Enfin, le mobilier le plus lugubre qu'on puisse imaginer, enfin, du mobilier de cantine ou de pensionnat, vous voyez, l'immeuble en métal gris. Une machine à écrire contre un mur et puis des cibles de tir qui représentaient des hommes avec les points d'impact souhaités avec leur valeur en quelque sorte. Et puis de temps en temps, à côté de sa machine et son flingue, il se retournait et bam, il tirait sur une cible pour pas perdre la main. Donc il a toujours été attiré par les armes. D'ailleurs, c'est la dernière chose dont on a parlé quand on s'est vu dans le quartier. Un peu de temps avant sa mort, si, quelques années avant sa mort, enfin, c'est en tout cas la dernière fois où je l'ai vu, il avait quitté New York, il habitait le Kansas, il me parlait de ses chiens, il répondait complètement à côté des questions, exprès, je pense. Je suis sûr qu'il n'aurait plus rien à foutre d'interviews, des confessions, de confidences et autre chose, ça peut l'intéresser. Et il me disait oui, je vais dans la campagne et je tire à la carabine. Voilà. Ça lui semblait vraiment un achievement. Quelque part. Mais il avait déjà écrit de très beaux livres. Il était âgé, il avait surmonté tout, ce homme-là.
Mon nom est Burroughs. Mon nom est Bill Burroughs. Je suis un écrivain. Laissez-moi vous raconter deux ou trois choses sur mon boulot. Ça ressemble beaucoup à une mission. Vous plombez sur l'interzone avec cet air gris et anonymement mal intentionné qu'ont tous les écrivains. Vous, pas fou de vous balader tout seul dans ce coin? Moi, bon guide? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Eh bien, j'aimerais écrire un best-seller qui serait un bon livre, un livre sur des personnes et des lieux authentiques. Le guide m'arrêta. Ça suffit, monsieur. Je ne veux pas lire votre livre puant, c'est un boulot pour le lecteur blanc. Le visage du guide était un écran blanc. Le visage des brouffeurs s'y déplaçait. Franchement, votre cas est difficile. Si nous voulons le faire passer dans le circuit,
selling is more of a habit than using. Non-using pushers have a contact habit, and that's one you can't kick. Agents get it too. Take Bradley the buyer. Best narcotics agent in the industry. Anyone would make him for junk. I mean, he can walk up to a pusher and score direct. He is so anonymous, gray, and spectral, the pusher don't remember him afterwards.
Tout accroche chez lui. Vous savez, à l'époque, j'ai quand même repéré à 3 mètres de distance qu'il était héroïnomane. Ça se voyait. Il était dans un état de stupeur presque immobile. Mais ça lui donnait cette maigreur, cette évanescence, cette transparence blanche, ou plutôt grise. Grise. Vous savez, Beckett dit que le gris, en fait, c'est du noir clair. Et c'est tout à fait ça. Il avait, les junkies ont la pensée grise, la peau grise, le regard gris, l'air gris. Et, mais c'était chez lui un gris comme un arc-en-ciel. Enfin, quand il vous regardait et qu'il s'adressait à vous, c'était vraiment... d'un gris de feu.
Anything. His ravaged green face splits in a horrible smile. I'm still young, boss, and I'm pretty strong when I get my blood up.
Michel Brodeau.
Je pense que c'est la fin des années 60. C'était à Londres. Il habitait une rue qui s'appelait Duke St. James. Un tout petit appartement, troisième ou quatrième étage, et sans ascenseur. Il habitait dans un dépouillement proche du zen. Il nous a reçus dans une petite, toute petite pièce. C'était un beau jour d'hiver. J'étais avec un ami. Il y avait une table sur laquelle il n'y avait strictement rien, à part un cendrier, deux verres d'eau et son baquet de Craven. Et je me disais, on va tomber sur un débris humain, un espèce de vieux clodo qui a quand même vécu plusieurs décennies sous héroïne à haute dose. Et c'est lui qui nous a eu à l'usure. Je veux dire, il était increvable. Et très froid, très distant, un peu glacial, comme ça, avec cette voix extrêmement grave des profondeurs, comme ça, une voix de l'accent du Missouri, que je ne chercherai pas à imiter parce que c'est toujours ridicule, mais il a fait beaucoup d'enregistrements, donc tout le monde peut se remémorer sa voix. Il a même figuré sur les disques de Laurie Anderson, d'ailleurs.
Enfant, je voulais être un écrivain parce que les écrivains étaient riches et célèbres. Ils erraient dans Singapour et Rangoon en fumant de l'opium, vêtus d'un costume de soie pongée jaune. Ils inhalaient de la cocaïne à Mayfair, s'introduisaient dans des bas-fonds interdits avec un garçon indigène de confiance, et ils vivaient dans le quartier indigène de Tanger pour fumer du haschich en caressant d'une manière languissante une gazelle domestique. Je peux diviser ma production littéraire en séquences. Où, quand et dans quelles circonstances je l'ai écrite. La première séquence se déroule dans une rue de maison à deux étages de briques rouges au toit en ardoise, avec des pelouses sur le devant et de grandes cours arrière. Dans notre cour arrière, mon père et le jardinier s'occupaient d'un jardin rempli de roses, de pivoines, d'iris et orné d'un bassin pour les poissons. L'adresse est 4664 Pershing Avenue et la maison s'y trouve encore. Mon premier essai littéraire s'intitulait « L'autobiographie d'un loup ». Les gens riaient et disaient « Tu veux dire la biographie d'un loup ?» Non, je voulais dire « L'autobiographie d'un loup » et c'est ce que j'entends encore aujourd'hui.
Thank you.
Et donc, il nous a reçus, et pas du tout fatigué, gris, sépulcral, grave, la paupière tombante, habillé en clergyman, enfin, costume gris, air gris, cheveux gris. C'est tout juste qu'il portait pas son chapeau chez lui, il fumait ses craven à la chaîne, il buvait de l'eau, et on a parlé de tout, de la permanence du phénomène junkie, de Tanger, de la grande époque où il avait connu Paul Bowles, où il était arrivé parce que à cette époque-là, le peu de dollars qui lui restait de la famille, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est le petit-fils de l'inventeur des premières machines à calculer, Burroughs, qui porte encore son nom, et dont la famille a été dépouillée par un comptable habile et indélicat au moment de la dépression de 1929, qui leur a racheté leur part pour pas grand-chose, avant que ces actions ne remontent très fort. Et donc ses parents tenaient un petit magasin de verre filé à Saint-Louis, Missouri. Et ils avaient une petite rente, et donc quand ce jeune homme, avant d'être un vieux monsieur, a commencé à mener sa vie errante et d'écrivain, d'artiste, ils lui ont versé une petite pension, mais à l'époque ça faisait pas grand-chose pour vivre aux États-Unis. Mais en revanche, ça représentait beaucoup au Maroc. Donc il s'est installé à Tanger, où il pouvait se payer sa drogue, la compagnie des garçons, évidemment.
Squares on both sides. I am the only complete man in the industry. But a yen comes on him like the great black wind through the bones. So the buyer hunts up a young junkie and gives him a paper to make it. Oh, all right, the boy says. So what you want to make? I just want to rub up against you and get fixed.
Quand j'eus 12 ans, nous déménageâmes dans un endroit de 5 arpents dans Prince Road. Je fréquentais la Jonesboro School qui se trouvait au bout de la rue. Cette période fut principalement celle des histoires de crimes et de gangsters. J'étais fascinée par les gangsters et comme la plupart des garçons de mon époque, je voulais être l'un d'eux parce que je me serais sentie bien plus en sécurité avec mes armes loyales autour de moi. À 15 ans, on m'envoya à Los Alamos Ranch School pour ma santé, où ils fabriquèrent plus tard la première bombe atomique. Elle me semblait si parfaite comme dans l'hymne de l'école. Loin et au sommet de la crête du Mesa, nous menons la vie que nous aimons le plus, Los Alamos.
Gérard Georges Lemaire.
C'était en 75, le colloque de Tanger. Et oui, c'était étrange, les circonstances ont été assez singulières, parce que c'est venu d'un rêve. En fait, j'avais rêvé que j'organisais quelque chose autour de la personnalité de William Burroughs, que je ne connaissais pas encore à l'époque, et de Brian Gysin, que je connaissais déjà très bien, et que j'avais commencé à publier. Alors, il faut dire qu'à l'époque, je travaillais chez Flammarion, malheureusement. J'avais créé une collection qui s'appelait Connections et j'avais publié d'une part le roman de Gysin, The Process, qui avait pris comme titre français Désert dévorant, et un ouvrage commun de Burroughs et de Gysin, qui était une histoire assez invraisemblable, qui s'intitulait The Third Mind, qui s'est intitulé en français Œuvre croisée. et qui devait être fait par Grove Press aux États-Unis, qui avait renoncé, et finalement c'est mon édition qui a été reprise aux États-Unis. Mais bref, donc ces livres sortaient, mais il fallait également obtenir un certain écho à ces publications. Et là, plutôt que de suivre les voies classiques de la chose, donc j'avais imaginé organiser ce colloque. Et effectivement, je lui ai donné le nom de Tanger, parce que c'est là où Borrows et Geisen s'étaient rencontrés, même s'ils sont vraiment connus et fréquentés un peu plus tard à Paris en 69, mais c'était leur lieu de premier contact, disons. Et bien sûr, il n'a jamais été question qu'on puisse l'organiser au Maroc, mais j'aimais bien le nom. Et en fait, pour des raisons pratiques, la chose s'est réalisée à Genève, ce qui était l'endroit même le pire qu'on puisse poser pour ce genre d'activité. Mais enfin, c'est comme ça que ça s'est fait. Et l'idée de base pour moi, c'était de rencontrer Borrows, en fait.
Raphaël Sorin, vous avez réalisé un film sur William Burroughs que vous avez présenté chez Pivot. C'était en quelle année?
C'était au début des années 70, quand Pivot faisait ouvrir les guillemets. Vraiment au tout début de l'émission, et à l'époque, je publiais à Champ Libre Révolution électronique, et je suis allé voir Pivot, à qui j'ai proposé un sujet là-dessus, sur Burroughs, et il a dit d'accord. Donc on a fait venir Burroughs de Londres, puisqu'il habitait Londres, et j'ai fait un quart d'heure de documentaire, assez marrant, puisqu'il s'agissait de revenir dans la chambre du Beat Hotel, rue Gilcoeur, où il avait écrit Le Festin Nu. Évidemment, tout avait changé, il y avait du papier à fleurs, d'ailleurs des fleurs horribles, des espèces de tournesols. Il n'avait pas de bagages, je le vois encore arriver à Orly, avec une grande photo sous le bras, et on le voyait dans cette chambre à l'époque du Festin Nu, où il avait une sorte de casier, dans lequel on met les mouchoirs ou les chaussettes, et à la place, il y avait, on voyait sur la photo, le manuscrit du Festin Nu.
Alors ça s'est passé au mois de septembre 75, et j'avais réuni 3 sous, mais vraiment 3 sous. Si j'avais été plus conscient, je ne me serais jamais lancé dans une affaire pareille. Et on s'est retrouvé toute une bande, non seulement organiser le colloque proprement dit, mais également à présenter des spectacles, si bien que des soirées de poésie sonore, des soirées rock. Il y avait un danseur japonais, on a eu spectacle de théâtre avec le Plan 4 Bruxelles, des projections de films. On a vu tous les films de Borrows, ce qui n'était pas une chose facile à l'époque, les films qu'il avait fait avec Anthony Bolsch. Et donc ça donnait des journées assez mouvementées, assez passionnantes. De tout cet événement est sorti un livre que j'ai publié chez Christian Bourgois la nuit suivante, où il y avait donc ce qu'on pourrait appeler les actes, dans le sens le plus classique du terme, des entretiens, des contributions, toutes sortes de documents, qui a donné un fort volume, et puis aussi où j'ai tenté d'impliquer un certain nombre d'auteurs qui n'avaient pas forcément de relation directe. J'ai fait une espèce d'enquête, j'ai interpellé des écrivains, alors c'était le cas de Solers par exemple, ou Jean-Jacques Schulz, qui est un des rares qui s'était intéressé pour cet écrivain américain qui était encore fort peu connu. Et puis après il y a eu un second volume en 80 où j'ai continué ce jeu d'implication.
Je suis... Cette soirée est belle et triste. Elle est belle et triste parce que il est prouvé que certaines choses et qu'il est difficile de se faire entendre quand on arrive de New York et quand on veut simplement parler devant des personnes que ça intéresse. Je ne sais pas, il y avait de quoi faire, dans ce cas-là, les gens que ça n'intéressait pas ou qui ne connaissent pas l'anglais, ils n'avaient qu'à sortir. Il y a d'autres séances, et tout un autre matériel. Non. Bon, l'incident du chapeau est très significatif. Apparemment, une partie... L'incident du chapeau est très significatif. Et à quoi vous avez abouti, c'est à ce que M. Burroughs, à juste titre, s'en aille puisqu'il n'avait plus son chapeau. Vous pouvez vous en aller aussi, dans la mesure où on n'a pas assez défendu son chapeau. Et je vous signale... Non, de deux choses l'une. Ou vous vous intéressez à la littérature. Dans ce cas-là, il fallait écouter ces textes et les écouter.
C'est la seule manière de s'intéresser à la littérature. On peut s'intéresser à la littérature en faisant des interventions. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Non, il faut s'intéresser aux textes et à la lecture des textes. C'est... Je suis désolé, j'en suis tout à fait persuadé.
Alors ça, c'était une soirée assez rocambolesque, parce que à l'époque, je collaborais assez souvent avec Blaise Gauthier, qui était un très bon ami, mais aussi un ami très difficile. Et c'était un homme qui avait des qualités extraordinaires et des défauts extraordinaires. Et parmi ses défauts, il y avait son anarchie congénitale. Et donc, j'avais voulu organiser une soirée très minimaliste, et surtout pour mettre en valeur le rôle, la dimension d'écrivain de Burroughs, parce que la légende s'installait, mais l'œuvre ne s'installait pas. C'est ça qui me faisait un peu peur. Et je dis, voilà, on va faire une soirée très puriste, il y aura 4 tables, 4 chaises, il y aura William Burroughs à une table, Brandeis à une autre, Philippe Mikreamos, qui l'avait traduit à l'époque, et moi-même, c'est tout. Et donc les deux protagonistes disaient en anglais, et nous lisions les traductions en français. On ne peut pas rêver plus strict, ça, plus propre. Alors, et je me dis, on va faire une soirée comme ça pour de littérature. Bien, la chose se fait comme je l'avais pensé, tout commence bien, et soudain, on sent, il y avait beaucoup de monde, et on sent une étrange atmosphère dans la salle. Quelque chose cloche. Hein, au cours des lectures, je vois Bryan qui est agité, Burroughs qui se tourne dans tous les sens, etc. Effectivement, les choses commencent à mûrir et à se déclencher, et il y a un garçon qui grimpe sur scène et qui commence à se déshabiller totalement et qui se trémousse au milieu de nous, comme ça, complètement nu. Bon. Alors les choses ont commencé, la salle est devenue de plus en plus tumultueuse, il n'y avait pas beaucoup de bruit, c'est pas qu'il y avait une agitation comme ça, de gens qui criaient, pas du tout, mais il y avait une tension, il y avait une pression, une tension qui montait sans cesse. Et effectivement, vous voyez bien qu'il y avait des actes qui se faisaient, c'est au cours de cette soirée que quelqu'un est venu prendre, voler le chapeau que Burroughs avait posé sur sa table. Alors le pauvre Burroughs, qui voyait son chapeau, il tenait comme un prunelle de ses yeux, qui était complètement désemparé, va ça créer une situation étrange. C'est vrai qu'on a vu soudain la basculer quelque chose par rapport au personnage. C'est-à-dire d'un personnage qui était... entouré de mystères, parce que c'est vrai que c'est un personnage quand même étrange, Burroughs, c'est quelqu'un, quoi, et surtout pour les Français, quand même, beaucoup de mal à cerner, on connaissait encore mal sa vie, l'histoire de la drogue avait été largement transformée, enjolivée, déformée, etc. Et là, soudain, il y avait un côté, je dirais pas satanique, mais il y a eu un côté noir qui s'est imprimé à partir de ce moment-là. Hein, ça a été quand même un moment assez important dans la représentation de cet écrivain qui s'est joué à Beaubourg ce soir-là.
C'est un long voyage. Nous sommes les seuls voyageurs. C'est comme cela que nous nous sommes connus, si bien que le son de sa voix et son image clignotant sur le magnétophone me sont aussi familiers que les mouvements de mes intestins, les battements de mon cœur et la sonorité de ma respiration. Nous ne nous aimions pas d'amour, nous nous aimions tout simplement. À vrai dire, quand je le regarde, le meurtre est dans mes yeux, et quand il me regarde, le meurtre est toujours dans ses yeux. Le meurtre sous une lampe à carbure appuya, il pleuvait, c'est un endroit très humide, en buvant de l'arguadiente avec du thé à la cannelle pour couper le goût du pétrole, il m'appelait un fils de pute, sale ivrogne, et voilà, ça y était là, sur la table, tout cru et saignant, comme un couteau qu'on venait d'utiliser, assis, engourdi et tranquille dans un transatlantique après avoir lu les bandes dessinées du journal du dimanche du mois dernier. Les blagues, il les appelait, et il lisait chaque mot. Quelquefois, ça lui prenait une heure entière par rivière de Marie au Mexique. Le meurtre lent dans ses yeux, 10-15 ans plus tard, je vois le jeu qu'il a joué. Et il était un bon joueur d'échecs amateur, et cela prenait tout son temps, mais il en avait beaucoup. J'ai voulu jouer avec lui une fois, il me regarda en souriant et dit « Vous n'auriez aucune chance avec moi ».
Jean-Jacques Lebel.
Et alors, on s'assoit par terre chez moi, j'avais un atelier d'artiste, et on commence à fumer d'énormes pétards, et au bout, il y avait donc William Burroughs, Allen Ginsberg, Ian Somerville, l'amant de Burroughs, Corso, Harold North et Brian Gysin et moi. Et à un moment donné, très défoncé, on se dit, on est prêt, on a fait les rituels d'approche, on y va. Et on appuie sur un bouton, c'était des gros boutons en plastique carré, et on entend... etc. Puis ensuite, une voix plus de femme, on savait qu'il y avait Maria Cazares, on croyait entendre la voix d'Artaud, de Roger Blin, etc. Et ça dure une vingtaine de minutes, et à la fin, oh, là, je me souviens, la bobine continue à tourner à vide, et, oh, silence, hypnotique, merde, alors ce Artaud, quel génie, c'est fabuleux, il a inventé un nouveau langage. Oh, ben là, les amerlocs étaient sciés, et alors Burroughs, il secoue très légèrement la tête en nous regardant, c'est « not bad, man, not bad », ce qui pour lui est le maximum du maximum. Alors on recommence un peu à se défoncer, et puis à un moment donné, Ginsberg, toujours le perfectionniste qu'il était, je dis « je voudrais le réécouter ». Et alors il met la bande et puis il rembobine la chose. Et puis on entend là la voix, c'est-à-dire que je l'avais embobinée à l'envers. Ce qu'on avait entendu, c'était pour qu'on finisse avec le jugement de Dieu à l'envers. Et alors évidemment...
Il y a un problème avec l'exo Burroughs, c'est que... D'ailleurs j'en avais parlé avec lui, bon, il comprenait un peu le français. Il estimait à juste titre que beaucoup de traductions, notamment celles de Claude Pellieu, étaient défectueuses, ne rendaient pas... Et c'est difficile de traduire Burroughs. Alors il y a la fameuse traduction du Festin nu de Cannes qui allait plutôt bien, mais souvent on a une approche fausse parce qu'il n'y a pas le...
Raphaël Sorin.
Ce qui compte chez Burroughs, ce n'est pas tellement le sens. Souvent, c'est la musique, c'est la violence de l'attaque sonore. Et ça, en français, c'est très, très difficile. Il y a ça, il y a aussi ces métaphores très particulières, très inventives. Et je crois que là, il a innové énormément, à la fois dans le dérèglement du langage, et pas seulement avec le procès du cut-up, qui finalement est assez marginal. C'est plutôt une curiosité que quelque chose de fondamental. Mais c'est une approche physique, une approche microscopique, une approche atomique de la langue qu'il a vraiment fait exploser de l'intérieur, pas du tout comme Joyce, hein, d'une manière tout à fait originale et totalement américaine. Et il me semble que là, il y a quand même le problème de la traduction qui se pose, évidemment. On n'aura jamais, et on le sent très bien quand Burroughs lit ses textes, qu'il lit de manière magnifique avec sa voix étonnante, avec son accent de Missouri, hein, St. Louis, cette espèce de voix d'outre-tombe. Il a une manière de marquer les mots, de les ciseler. Et c'est vraiment proche, c'est pour ça qu'il était ami et lié à des gens comme Chopin, comme Heitzig. C'est proche de la poésie sonore. On a l'impression que ces mots circulent dans son corps, dans sa gorge, et dans tout son appareil phonique d'une manière extraordinaire, qu'il les manipule avec beaucoup de talent, d'intelligence, et vraiment comme un grand acteur. Et ça, il me semble que c'est ça l'innovation de Burroughsienne. Alors, il y a évidemment les thèmes qui sont intéressants. Naked Lunch, très grand livre, un livre magnifique. C'est un livre majeur, hein. Si on devait citer quelques-uns des grands livres du siècle, il me semble que c'est un des livres qu'il faudrait évidemment citer. Alors, il y a l'influence évidente de cette prose étonnante sur la musique, sur le rock. Je comprends que les rockers étaient touchés par ça, parce qu'il y a vraiment quand on en voit les textes de Lou Reed, il y a des proximités. Il y a aussi, chez Burroughs, un intérêt pour le cinéma, pour l'aspect visuel, le montage. Alors là, assez paradoxal, moi je me souviens d'avoir parlé cinéma avec lui. Et au lieu d'aimer le cinéma d'avant-garde, le cinéma ciselé ou le cinéma expérimental, pour lui, un des plus grands films, c'était Le Parrain de Coppola. Il m'a dit, ça c'est du cinéma, parce que c'est à la fois un film pour les masses, et c'est en même temps un film qui détruit, qui déconstruit complètement. Enfin, il disait peut-être pas ça dans ces termes-là, mais il était très impressionné par des livres populaires et aussi par Stephen King. Il m'a fait un jour un grand éloge de Stephen King, en me disant que là, il explorait des territoires nouveaux, Stephen King, à sa manière extrêmement accessible, extrêmement populaire, et que c'était ça qui était important, c'était d'arriver à communiquer à des gens pas forcément cultivés, par le cinéma et aussi par la littérature populaire, des thèmes sur la, tous les grands trucs, la police, la justice, le crime, la drogue. Donc il avait cette curiosité paradoxale pour des formes qui ne sont pas du tout proches des siennes. Take off your skin and dance around in your bones. When it gets too hot for comfort and you can't get ice cream cones, 'tain't no sin to take off your skin and dance around in your bones. Just like those bamboo babies down in the South Sea tropic zone. Ain't no sin to take off your skin and dance around in your bones.
Dans ce film, il est question d'un complot. Faire sauter un train chargé de gaz paralysant, le convoi est parti de la côte ouest et se dirige vers la côte est. Et les gaz seront déversés dans l'océan Atlantique. Ce n'est pas un complot politique. Parmi le personnel du FBI, un seul de ses agents est conscient du danger. Et il ne peut pas convaincre ses supérieurs qu'un complot est en train de se tramer. Il joue avec ses soupçons et parfois il a quelques doutes à propos de son intuition. Quelques minutes avant le compte à rebours, il possède toutes les preuves nécessaires. Il arrive à joindre le président, la marine, l'armée et les marines convergent sur le QG des conspirateurs. L'homme du FBI rassemble les polices régionales et lui-même organise et dirige le raid. Ces hommes sont annihilés en même temps que les conspirateurs, les Marines, l'armée et la marine se précipitent sur un monceau de corps et désactivent le missile contrôlé par les robots qui doivent faire sauter le convoi. Le complot est un succès à titre posthume quand un camionneur tripant sous acide entre en collision avec le convoi et sa charge d'octane. Parmi les conspirateurs, il y avait un météorologue très populaire, un homosexuel triste et amer, un photographe chinois, une lesbienne, un pistolero mexicain et un noir qui fut châtré dans son berceau par les rats. Le lieu et le moment choisi pour le compte à rebours dépendent évidemment des alizés. Le météorologue est absorbé par ses calculs, ses cartes, ses baromètres, par ses engins qui mesurent les vents, par ses observations astronomiques, télescopiques des nuages et des oiseaux. Il méprise les rapports météorologiques. Bon, ils ignorent la différence entre un typhon et une louve. Voyez-vous ce vautour qui plane là-bas? Il peut vous en dire plus qu'un labo rempli de cartes et de baromètres.
Michel Brodeau.
Les techniques proprement dites, qui sont d'ailleurs pas uniquement Burroughs, elles sont, bon, c'est lui qui les a rendues célèbres, mais... elles étaient un peu dans l'air du temps. Moi, je n'y crois pas trop à ces bricolages. En gros, il s'agit de deux techniques. L'une qui s'appelle le cut-up. Vous prenez une page, par exemple, et avec des ciseaux ou un cutter, vous la coupez verticalement. Alors, vous n'avez plus que le début des lignes, et puis elles enchaînent, si j'ose dire, avec les lignes de la page d'après, ou en dessous, plutôt. Ça fait une sorte de cadavre exquis de patchwork, comme ça, imprévisible. Et puis, ça dépend de l'endroit où vous coupez, dans quel sens vous coupez, en biais, en travers, à gauche, à droite, etc. Bon, bref. C'est une façon de faire entrer le hasard. Un hasard limité, puisqu'on choisit le corpus dans lequel on travaille, bien sûr. Le fold-in, qui est la deuxième méthode, c'est une méthode de pliage. Ça revient au même. Vous pliez une feuille dans un sens ou dans tel autre.
Technique de la peinture,
voilà. Introduction de l'aléatoire dans ce qui, au départ, est un art volontairement conçu comme une séquence plus ou moins harmonieuse visant à un effet de beauté. Ce qui est le style, l'art, la peinture, la littérature, etc. Donc c'est un mouvement de régression, de négation, disons, ou de mise en doute, qui est commun à tous les arts du XXe siècle, dont ces techniques-là ne représentent qu'un des aspects, mais enfin, je pense que les surréalistes avaient creusé la chose avant lui, avant Burroughs. que les dadaïstes y avaient songé avant les surréalistes, et que d'autres, les lettristes y ont pensé aussi, ou l'ont réalisé. En fait, tous les résultats sont pratiquement décevants de ces choses-là. On pourrait dire que ce qui est bon avec ces techniques, c'est ce qui, de l'écrivain, subsiste malgré ces techniques. C'est-à-dire que quand le talent est assez fort pour survivre à cet estropiage un peu crétin de la technique, pour, voilà, et ben là vous avez affaire à un écrivain. Et bon, Burroughs peut te tordre le cou à ses romans dans tous les sens, il peut les déchirer, nous donner des fragments de journal, etc. Même les bribes sont intéressantes, et même sa façon de se répéter, de revenir sur les mêmes trucs, de faire comme là, une espèce de musique répétitive où ça, il y a des séquences qui tournent et qui s'enchaînent. Hein. Tout ça, c'est passionnant parce qu'au fond, l'individu, l'équation William Burroughs est d'une complexité, d'une richesse formidable et subsiste à ce travail-là qui détruit l'écrivain médiocre, immanquablement.
You reckon hell who leave me out. When me you fly, I am the wings.
Il avait l'allure d'un magicien désespéré et complètement raté qui laisse pleuvoir de sa manche les cartes qu'il tentait d'y dissimuler. Il y avait une horrible odeur inconnue attachée à lui, comme celle d'une momie gelée qui fond au milieu d'un marécage fétide. « Tu es un cadavre ambulant », lui avait fait indirectement savoir Mrs. Greenfield par l'intermédiaire d'un ami dont elle savait qu'il rapporterait son verdict. C'est comme ça qu'elle était. Des années après, quand il apprit qu'elle était morte, Audrey prit sa revanche. C'est comme ça que les écrivains sont. C'est pas n'importe quel cadavre qui peut marcher. Il a une tête de chien tueur de moutons, décréta le colonel Greenfield, un vieux blanc de belle allure à la moustache grise taillée. Audrey eut là aussi sa revanche, quand il apprit que le colonel avait été terrassé par une hémorragie. Mais je suis un chien tueur de moutons. Les meules d'un écrivain broient lentement, mais elle moule excessivement fin. Il avait l'impression d'être bouclé au fond de quelques greniers crasseux, observant impuissant les commerçants repousser vers lui sa monnaie sans un merci, les patrons de bar lui lancer après l'avoir dévisagé. « On ne veut pas d'individus de votre espèce ici. »
The road to the western lands is devious, unpredictable. Today's easy passage may be tomorrow's death trap. The obvious road is almost always a fool's road. And beware the middle roads, the roads of moderation, common sense, and careful planning. However, there is a time for planning, moderation, and common sense.
Je me souviens d'un ami dont je ne dirai pas le nom, qui lui était très, très amoureux de Burroughs et qui est allé au lit avec lui. Et il dit que quand Burroughs s'est déshabillé, il a eu un choc parce qu'il était tellement maigre, on aurait pensé qu'il sortait d'un camp de prisonniers, n'est-ce pas ? Il était squelettique. Et il a vu que mon ami avait un choc, et il a dit, ne t'inquiète pas, c'est pas grave, je fais toujours peur, n'est-ce pas? Il était conscient de ce que son corps de junkie décharné faisait peur, n'est-ce pas, avec quelque chose de cadavérique, de d'outre-tombe. Mais c'était un type d'une intelligence absolument brûlante. Et il adorait, comme vous savez, travailler avec des musiciens. Il a travaillé avec Phil Glass, il a travaillé avec bien d'autres. Évidemment, dans le bunker tout Bowery où il vivait à l'étage en dessous de John Giorno, et qui est resté intact d'ailleurs depuis sa mort, j'ai souvent dormi là, n'est-ce pas? Car il était un homme d'une qui faisait peur, ça physiquement, par son côté de regard métallique, mais il était d'une extrême gentillesse. Et un homme qui savait donner des preuves d'amitié et d'affection très 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 attendrissantes. Et comment vous dire, je l'ai visité souvent à Londres dans les années 60 à Duke Street. Il vivait dans une minuscule petite chambre bourrée de dossiers, parce qu'il travaillait sur dossiers, il découpait tout dans les journaux. C'est comme une espèce de, avant Internet, il avait tout dans des dossiers, dans des classeurs, et tous ses récits étaient à base de feedback, n'est-ce pas, du réel. Il disait que Time Magazine, n'est-ce pas, était le pouvoir, c'était avant la télévision, tout ça, n'est-ce pas, et parce qu'il imposait, ce journalisme pourri, imposait une vision du monde qui interprétait et nommait le réel, décrivait le réel. Donc le réel n'existait plus, puisque c'était la définition dominante du réel qui avait pris la place du réel. Exactement, pendant la guerre du Golfe, on a vu ce que ça donnait, n'est-ce pas, les jeux vidéo prennent la place de l'événement historique vécu avec tout. Les morts sont effacés. Mais c'est exactement, Burroughs a dénoncé ça le premier, en disant que c'est dans le langage qu'il fallait attaquer le système d'exploitation et de desservelage. Et c'est ce qu'il a entrepris de faire. Et dans le langage, il a révolutionné le lecteur, n'est-ce pas ? Grâce au langage. Alors le problème, c'est que vous avez remarqué peut-être que ces grands récits du début, Nova Express, Naked Lunch, Cities of the Red Night, etc., sont structurés toujours plus ou moins de la même manière. C'est-à-dire que les chapitres ne sont pas les mêmes, mais sont structurés sur le même mode. Alors vous avez au début un cut-up, n'est-ce pas, qui démarre en trombe, n'est-ce pas, où il y a 50 000 mondes qui se cognent les uns dans les autres et qui fabriquent du sens, qui fabriquent du langage, qui y a toute une matière langagière absolument somptueuse et totalement polysémique qui va dans tous les sens. Et peu à peu, ce magma volcanique, cette espèce de force tellurique du langage qui avance comme un raz-de-marée mondial, n'est-ce pas, peu à peu prend la forme d'une sorte d'entonnoir, et vers la fin du chapitre on se retrouve avec des phrases linéaires avec un sujet, un verbe, un complément et un récit, n'est-ce pas, linéaire. Et ça, c'est comme la fin de la comète, n'est-ce pas. On arrive vers quelque chose qui raconte avec quelque chose qui est arrivé à des personnages dont on retrouve les noms, n'est-ce pas. Ils ont fait ceci avec cela, et avec un tel est arrivé ceci à cela, et puis voilà. Et le chapitre s'arrête. Et le prochain chapitre, bah, ça recommence. C'est l'explosion, c'est la guerre des mondes, c'est la guerre de toutes les réalités possibles et imaginables, c'est l'explosion, nucléaire dans tous les sens du mot, et puis ça recommence l'entonnoir et on arrive à la fin. C'est comme ça que c'est. Vous avez remarqué que c'est comme ça. Alors le problème, c'est que quand il a rencontré son secrétaire et impresario, James Grauholz, dans les années 80, l'autre s'est dit, maintenant ça suffit, avec la Beat Generation, la marginalité, avoir difficilement de quoi s'acheter sa cocaïne, voyager en touriste classe et tout ça, ça va pas. On va faire du blé, on va américaniser, on va hollywoodianiser tout ça. il signe un contrat avec lui et il structure les romans avec lui. C'est-à-dire que sur un tableau noir, il lui dit voilà ce qu'il faut écrire à tel moment, qu'est-ce qui est arrivé à tel personnage, comment tu vas développer, comme un scénariste, comme un producteur exige du scénariste des choses extrêmement précises.
Scène d'ouverture, première séquence. Deux gros inspecteurs un peu cradoc sont assis sur des chaises ordinaires. Le chien du commissaire, dyspepsique, porte des lunettes à monture d'acier. Il est assis à côté des inspecteurs, son bloc-notes sur les genoux, il tripote son stylo. Un des inspecteurs fume un cigare. L'autre, flegmatique, mâche son chewing-gum. Les visages des deux flics sont fondus dans la pénombre, mis en ligne comme pour une identification. Au premier abord, il n'est pas évident qu'il soit dans une chambre d'hôpital. Des bruits d'hôpital surgissent du corridor. Les deux flics, plus tard, apparaîtront dans les rôles de Lulu Rosencrantz et Abel. Leur visage, que d'ailleurs nous ne distinguons pas.
When I became captain of the town, I decided to extend asylum to certain citizens who were persona non grata elsewhere in the area because of their disgusting and disquieting performances. One was known as Bare Ass Annie. She had an auxiliary asshole in the middle of her forehead like a baneful bronze eye. Another was a scorpion from the neck down. He had retained the human attribute of voice and was given to revolting paroxysms of self-pity and self-disgust, during which he would threaten to kill himself by a sting in the back of his neck. He never threatened anyone else, though his sting would have caused...
Patrick Bouvet.
Avant d'écrire, j'étais plutôt dans la musique, dans les années 80, même fin 70, puisque j'ai commencé assez jeune. Et peut-être que je suis rentré par cette petite porte qui est la musique rock, disons, enfin une sorte de musique populaire, on va dire, pour découvrir plein de choses quand j'avais 15 ans, 16 ans. Et Burroughs, je l'ai découvert comme ça, c'est-à-dire que je me suis aperçu que les gens comme David Bowie parlaient beaucoup de son travail. Il avait même utilisé la technique du cut-up sur certains de ses titres pour des paroles, ouais, certains titres. Il y avait Patti Smith, enfin il y avait tous ces gens. C'était quoi en 77, 76, 77. Television, Patti Smith, Lou Reed, bon, on pourrait en citer pas mal comme ça. Il était même sur la pochette de Sgt. Pepper's, d'ailleurs, Burroughs. Et c'est un album que j'ai découvert tout petit, je savais pas qu'il y avait Burroughs dessus, mais après, voilà, on tire un fil et puis on se rend compte que ce monsieur se balade un peu partout. Et étant baigné dans cette culture rock, j'ai commencé à m'intéresser peut-être à Burroughs pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire que il avait un avantage pour moi, à mes yeux, d'adolescent, c'est qu'il avait un look. C'était une sorte de personnage, une sorte d'icône, au même titre qu'une rockstar.
Pregnant women were placed in the boxes and left on the peak for a period of 3 hours. Often the women died, but those who survived usually produced monsters. The priests considered these monstrosities a way of humiliating the human race before the gods in the hope of diverting their anger.
Alors donc, James Burroughs exigeait de lui qu'il écrive des romans vendables, des produits formatés pour l'industrie du livre, n'est-ce pas, qui correspondent à des schémas littéraires, romanesques, classiques et extrêmement ennuyeux, et qui châtrent carrément Burroughs de son génie, qui est le cut-up, n'est-ce pas. Dans les textes de la fin, il y a un tout petit peu de cut-up et énormément de récits linéaires, tandis que ce qui était génial dans les textes du début, c'est qu'il y avait surtout du cut-up, et on retombait sur nos pattes, comme à la fin d'un trip du LSD, on se retrouve dans le réel, on dit bonjour, on prend un café. Mais ce qui est important, c'est le voyage qui déstructure et qui transforme l'être. Tandis que là, tout d'un coup, c'est l'intervention du commerce de l'émission, de Hollywood. Et d'ailleurs, voilà, c'est extrêmement pénible. Et d'ailleurs, il l'a enfermé à Lawrence, Kansas, au milieu de rien, au milieu des États-Unis, pour le soutirer des influences de Ginsberg, de John Giorno et des autres, n'est-ce pas, qui le mettaient en contact avec les jeunes poètes et les jeunes musiciens. Et James déteste toujours la Beat Generation, ce côté un peu rebelle, révolté. Il est tout à fait pour l'intégration dans l'industrie culturelle. Et d'ailleurs, il l'a poussé Bon, il a fait des tournées, mais moi, j'ai rien contre les tournées. Les tournées au cours desquelles il lisait Le Déjeuner Nu, c'est des événements inoubliables, n'est-ce pas? Il a poussé aussi à faire de la peinture, ça c'est moins bien. Il n'a pas le génie de Victor Hugo, de Baudelaire, de Henry Miller, ou d'Henri Michaud, ou d'Artaud, encore moins. N'est-ce pas? C'était simplement mettre un peu de couleur sur une planche de contreplaqué, tirer dedans au fusil. Bon, c'est amusant parce que c'est Burroughs, mais c'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Alors il a organisé des expositions à New York, à Paris, il a essayé de faire du fric avec tout ça. C'est-à-dire qu'il est le légataire universel de Burroughs, ses textes et de sa peinture, et c'était devenu une affaire commerciale. C'est un peu triste, n'est-ce pas? Mais enfin, vous me direz, ben, c'est le cas de... C'est que toujours comme ça, c'est pas une raison pour accepter. Well, this is insane. Change to the worse. Please look out. My fortunes have changed and come back and went back since that. It was desperate. I'm wobbly. He ain't got nothing on him, but we got it on his helper. Control yourself. Well, this is insane. They pull me out, I am half crazy. They won't let me get up. They dyed my shoes. Open those shoes, give me something. I am so sick. Give me some water, the only thing that I want. But I am dying. Laurent Thierry.
Dans les années 80, il y a une génération d'artistes qui sont très jeunes, qui émergent. Ce sont des artistes, pour ce qui est des Américains, qui ont commencé à s'exprimer dans la rue. Je pense bien évidemment à Basquiat, avec le fameux sigle Samo. Parce que l'expression de la rue, c'est vraiment tout à fait essentiel. C'est des artistes qui se veulent hors galerie, qui se veulent hors musée, et ils sont proches de manifestations comme le rap, la culture hip-hop. Je dis pas qu'ils s'en réclament, mais en tout cas, ils en sont proches. Hein. Ça, c'est absolument certain. Et un artiste comme Kesaring va également faire des dessins dans le métro. Alors, pourquoi tout d'un coup ces artistes s'intéressent? Il y a une espèce de mythologie, une référence qui est la Beat Generation, c'est-à-dire un certain nombre d'écrivains dont William Burroughs est sans doute le plus marquant, le plus important. Alors, il y a un certain nombre de facteurs. D'abord, il y a chez des artistes comme Basquiat et comme Kesaring, ce sont, disons les choses telles qu'elles sont, ce sont des marginaux. Ce sont des marginaux parce que Basquiat, il est noir, et un artiste peintre, attention, hein, parce qu'on accepte qu'un jazzman soit noir, mais un artiste peintre, tout d'un coup, qui arrive à New York, ça fait tiquer le petit monde du jet set. Et puis, ce sont des marginaux parce que c'est vrai qu'ils utilisent de façon assez, parfois presque provocante, les narcotiques. Ils passent leur temps dans les boîtes de nuit de New York. Ils sont dans des boîtes qui s'appellent le Club 54, le Club 57. Et alors donc, ils sont assez drogués, disons les choses, appelons par leur nom. Et il y a également une marginalité qui est celle de l'homosexualité pour ce qui est de de Kesaring. Alors voilà les artistes qui ont vraiment un mode de vie, disons, appelons les choses comme elles sont, disjonctées, hein, ce qui ne les empêche pas d'avoir du talent, ce qui ne les empêche pas d'être des suractifs, parce que non seulement ils passent du temps dans les boîtes de nuit, mais en même temps ce sont vraiment des forces de la nature pour ce qui est de la création. Et ils ont tout d'un coup cette référence qui est William Burroughs, parce que William Burroughs c'est un peu la même chose, mais 20-30 ans avant, c'était un écrivain, bien sûr, américain, décalé, il éprouve le besoin d'aller à Tanger, et évidemment, William Burroughs va connaître l'expérience de la drogue, qu'il appelle lui-même une descente aux enfers. Attention, il n'y a pas de... faut pas se tromper, hein, William Burroughs dit pas que la drogue, c'est un parcours idyllique. Hein. Et donc, William Burroughs, par son mode de vie, hein, cet écrivain qui, au plein marcartisme, va vraiment rejeter les schémas de la société américaine, va rejeter le conservatisme américain, avec, bien évidemment, il va retrouver à Tanger Kerouac, qui donnera le titre de son grand roman, qui est Naked Lunch. Donc, voilà, Burroughs, en même temps, Burroughs, il arrive dans les années 80, il est reconnu comme le grand écrivain. C'est-à-dire qu'il a été marginal pendant toute sa jeunesse, il a été rejeté en même temps, hein, parce que le premier livre de Burroughs, Naked Lunch, a été refusé. Il a dû le faire éditer en France par Girodias. Donc voilà un écrivain qui est rejeté. Mais il arrive, il a une aura quand il a au début des années 80. L'aura de Burroughs, plus son image de marginal qui a réussi, ça va évidemment fasciner et attirer des artistes comme Kesaring et Basquiat. Et en même temps, pour Burroughs, Kesaring et Basquiat, c'est des jeunes. Ils retrouvent ce qu'il a été. Ils retrouvent cette espèce de délire, de bouillonnement, et si je puis m'exprimer ainsi, ces petits jeunes, ça l'attire. Ils voient des gars qui ont du talent, qui au fond revivent cette espèce de rejet de la société américaine, d'expérience, et par conséquent, il va y avoir des infinités très très proches, et donc Burroughs va rencontrer Basquiat va rencontrer, Burroughs va se rendre dans l'atelier de Basquiat va se rendre dans ça s'appelait le bunker, il habitait dans un espèce de forteresse sans fenêtre, et de même que Kesaring va rencontrer Burroughs, et alors surtout ils vont faire, alors vous disiez au départ Burroughs est peintre, ce qui est sûr c'est qu'il va y avoir des œuvres communes entre Burroughs et Kesaring, et notamment il y a un texte
comme avec Warhol, d'ailleurs, Basquiat et Warhol.
Alors ça c'est une, si je puis me permettre, c'est une remarque tout à fait exacte. Moi je dirais que Burroughs c'est le Warhol littéraire pour Basquiat, voilà, c'est un Warhol pour eux, c'est l'équivalent de Warhol sauf que c'est un écrivain. Le mythe Warhol en art ressemble près de peu ou prou au mythe William Burroughs. Burroughs, c'est le tout à fait.
Nous ne voulons plus entendre le baratin du père, le baratin de la famille, le baratin de la mère, le baratin du flic, le baratin du prêtre, le baratin de la patrie, le baratin du parti. Je dis que nous avons entendu suffisamment de merde à ce sujet. Benjamin Berton. Alors, j'ai découvert l'œuvre de Burroughs de manière un peu bizarre, je dirais, sur le tard, en suivant la filiation d'écrivains attachés au réalisme social, notamment Pier Paolo Pasolini, qui traite par certains aspects un peu les mêmes thèmes que Burroughs, et particulièrement cette œuvre des Garçons Sauvages, qui, à mon sens, est une œuvre charnière dans l'œuvre elle-même de Burroughs, parce que pour la première fois, il sort un peu de ses œuvres hallucinatoires et ses œuvres de drogué, telles que Junkie, telles que Le Festin Nu, pour lesquelles il est peut-être le plus connu. Il sort également de son écriture faite de collages, d'expérimentations sur le langage, pour en arriver à une écriture assez sèche. C'est assez nouveau chez lui, assez suivi, et à s'inscrire dans un contexte romanesque presque classique, si on peut considérer que Burroughs écrit de manière classique. Alors, Les Garçons Sauvages, pour moi, c'est avant tout une grande œuvre politique. Alors, politique pour plusieurs raisons, parce qu'elle s'inscrit tout d'abord dans un contexte historique particulièrement bien identifié et identifiable. Donc Burroughs a écrit Les Garçons Sauvages entre 1967 et 1969, entre Paris et Londres, et l'œuvre, le livre, sort quelques années plus tard et arrive à Londres, notamment, en pleine période d'explosion du mouvement punk. Donc il y a deux dates charnières à retenir. La première, c'est donc la convention de 1967, convention du Parti démocrate, où à Chicago, de terribles affrontements ont lieu, presque à l'identique de ce qui s'est passé lors des dernières élections américaines, en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus violent, où donc l'Amérique puritaine va affronter une bande de joyeux hippies sous les yeux d'un trio magique de chroniqueurs composé de Burroughs, de Norman Mailer et de Jean Genet. Donc ça, c'est le premier événement fondateur. Le second, donc, on peut dire que ça peut être ces fameux Sex Pistols qui, par leur nature de mecs revendicatifs, extrêmement violents, vont faire écho directement aux bandes de garçons sauvages. On peut peut-être résumer en quelques mots, si on veut essayer de s'amuser à résumer ce bouquin, les garçons sauvages, en disant que c'est un affrontement interplanétaire, une guerre totale entre deux groupes de personnes. Et le bouquin reprend ça en le transposant dans diverses époques, divers contextes, puisque la chronologie est assez flottante. On se retrouve avec des scènes de 1898, des scènes de 1976, des scènes de 1988, d'autres qui se trouvent en Assyrie en 1200 et quelques poussières. Et donc la trame de base, c'est qu'une bande de boutiquiers, de généraux militaires, de pères de famille, commandés par le merveilleux personnage du général Lewis Greenfield, va rentrer en bataille contre une armée de garçons sauvages situés dans les marges cachées du tiers-monde, au Maroc, ailleurs, mais également dans les banlieues de l'Amérique puritaine. Et là, bon, on retrouve un écho quasi direct avec ce qui peut se passer en banlieue. Et donc le bouquin est l'histoire de cette traque. D'un côté, on a une sorte de conformisme frigide, hein, puisque toujours chez Burroughs, on a cette idée que dans le carcan familial, le carcan chrétien quasiment, on a une sorte de manque d'énergie important. Et de l'autre côté, une sorte de licence sexuelle toujours attachée, une forme d'hédonisme terrible attachée aux drogues, attachée à la sodomie, qui a toujours chez lui une valeur de libération d'énergie, une sorte de rugissement barbare quasi primal. Donc ces deux entités totalement contraires vont s'affronter avec des moyens qui sont ceux d'une guerre moderne, d'une guerre sauvage à coups de bombes, de pilonnement d'avions, de déplacements. Alors la description des garçons sauvages vaut son pesant d'or, hein. Ils empruntent des moyens de communication incroyables, ils ont un équipement vidéo, ils se déplacent en roller, ont des crosses de hockeyeurs prolongées de lames. Certains sont qualifiés d'armes à potentiel illimité, sont des médiums, des sodomites, ils ont des couteaux. Certains, les plus dangereux, donc, sont ceux qui ont perdu leurs deux bras lors d'affrontements terribles, et à la place de ces fameux bras, on leur a placé des sabres géants, des armes de science-fiction avec lesquelles ils livrent des mouvements de guerre proches de la guérilla contre l'ordre moral. Et c'est vraiment ce qui est le plus intéressant. Your flashy clothes are your pride and joy. A London boy, you're crying out loud that you're a London boy. You think you've had a lot of fun, but you ain't got nothing, you're on the run. It's too late.
Christian Bourgois.
Burroughs était pour les jeunes lecteurs enthousiastes, et je ne retrouverai pas dire jeunes lecteurs, pour les jeunes gens et jeunes filles, mais surtout jeunes gens qu'il admirait, qu'il rencontrait, qui étaient des non-lecteurs de Burroughs. Burroughs était une icône, il avait été une pop star. Moi, j'ai vu au Palace, à la grande époque de Palace, Fabrice Aimer, Burroughs lisant d'une voix incompréhensible, parce qu'il avait un accent du Sud extrêmement prononcé, qu'il n'articulait absolument pas, et ils étaient là comme si Bob Dylan avait été là. Bon, il l'écoutait. Alors, c'était dans un silence religieux que Bob Dylan n'aurait pas eu, mais je veux dire, c'est un silence extraordinaire, et tout le monde se taisait. Écoutez, Bob, j'ai vu Burroughs à Bourges, au festival de musique de Bourges, avec Gazin aussi, fêté par des centaines de jeunes garçons, et c'était pas simplement à cause de, disons, qu'il aurait été une icône de l'homosexualité ou une icône de la drogue, c'était est-ce que je dirais moi aussi, comme éditeur dans les relations admiratives, mais difficiles, j'avais l'impression que c'était qu'il était quelqu'un d'extrêmement important. Et je ne saurais, alors moi je l'ai quand même lu et beaucoup lu, mais je ne saurais pas vous expliquer vraiment, si vous voulez, je pourrais vous expliquer pourquoi Toni Morrison est un écrivain américain important, pourquoi Jim Harrison est un écrivain américain important, pourquoi Lobo Antonia est un grand écrivain, ou Antonio Tabucchi, ou Suzanne Sontag, enfin, tous des grands auteurs que je publie. Mais Burroughs, quand je disais que pour moi, il venait d'ailleurs, et je pense que il y a des demains, si vous voulez, des lendemains, des ailleurs, etc., qui le reconnaîtront. Je sais pas, il y a quelques, par exemple, personne n'a pensé à faire la comparaison, mais quand, j'ai vu le succès de Houellebecq, je me suis dit, mais il y a 15, il y a 20 ans, il y a 25 ans, dans Les Garçons Sauvages, dans un grand nombre des livres de Burroughs, il y avait le message que les gens ont pu trouver dans Houellebecq.
La politique ici est la mort. Une salle de conseil insonorisée et dérobée. Le docteur Pearson est assis au bout de la table et d'une voix académique, sèche et plate, parle en consultant ses notes devant lui. Mesdames et messieurs membres du conseil, je suis ici afin de vous faire un rapport sur les expériences préliminaires menées avec le virus B23. Examinons les origines de ce virus dans les cités de la nuit écarlate. La lueur rouge qui recouvrait le ciel le soir, dans sa partie septentrionale, était due à une forme de radiation qui donnait lieu à une épidémie connue sous le nom de fièvre rouge et dont le virus B23 s'avéra être l'agent étiologique. On a appelé le virus B23, entre autres choses, le virus de la mutation biologique, puisque cet agent provoquait des transformations biologiques chez ceux qui en étaient affectés. Transformations fatales dans de nombreux cas. Permanentes et héréditaires chez ceux qui y survivaient et devenaient porteurs de cette race de virus. Les premiers habitants des cités susnommées étaient noirs, mais un large éventail de variétés albinos ne tarda pas à apparaître, et cet état fut transmis à leurs descendants grâce à des techniques d'insémination artificielle qui étaient, c'est le moins qu'on puisse dire, hautement développées. En fait, la science moderne ignore tout de la manière dont furent contractées certaines de ces grossesses mutationnelles. L'immaculée conception, ou du moins la conception virale, était pandémique, ce qui fut peut-être à l'origine des légendes sur les démons amoureux, les succubes et les incubes du folklore médiéval. Le docteur Pearson poursuit. En agissant directement sur les centres nerveux, ce virus provoquait des frénésies sexuelles qui en facilitaient la transmission, tout comme les chiens enragés sont amenés à répandre le virus de la rage en mordant. On pratiquait diverses formes de sacrifices sexuels, pendaison et strangulation sexuelle, ainsi que l'emploi de drogues provoquant la mort dans des convulsions érotiques. La mort au cours de l'acte sexuel n'était pas chose rare et était même tenue pour les conditions les plus favorables de transmission des transformations virales. Nous parlons là, bien entendu, d'un terrain génétique plus ou moins vierge et de haute qualité. À cette époque, la race blanche nouvellement conçue luttait pour assurer sa survivance biologique, si bien que le virus servit des buts de la plus grande utilité. J'émets toutefois les plus grandes réserves sur l'opportunité d'introduire le virus B23 dans l'Amérique et l'Europe d'aujourd'hui.
Bernard Heitzig.
Il a parlé des virus, n'est-ce pas, dans son œuvre, les mots qui sont comme des virus, et regardez ce qui se passe sur Internet, n'est-ce pas? J'ai reçu encore il y a quelques jours, parce que j'y vais mercredi prochain, un fax de l'Institut français d'Amsterdam pour une lecture, parce qu'il y a un festival là. Et ils m'ont envoyé un fax d'information sur un virus qui venait d'être décelé, n'est-ce pas? Ils me donnaient l'information pour protéger mes ordinateurs, à supposer que j'en ai, et de passer l'information pour contrecarrer. Enfin, c'est vraiment, on est dans un monde absolument extraordinaire, n'est-ce pas? Et Dieu sait si le mot virus apparaît fréquemment dans l'œuvre de William, enfin.
il avait aussi écrit ce fameux livre, Les derniers mots de Dr. Schultz, qui en fait est pratiquement un scénario de film.
Oui, il est parti de l'agonie d'un célèbre gangster juif, Dutch Schultz,
Raphaël
qui,
Sera.
Qui est en train de mourir, avait une espèce de logorée, de discours désordonné, qui avait été noté par les flics. Il était fasciné évidemment par le crime, par la violence, son goût des armes aussi, son allure un peu de détective privé de troisième catégorie. Et ce livre, qui est d'ailleurs magnifique en anglais, et là aussi la traduction malheureusement le détruit pas mal, est un on pourrait, à partir de ce... Je ne sais pas très bien le film qu'on pourrait faire, mais ce serait, s'il fallait prendre des exemples dans le cinéma, ce serait proche de Tarantino, peut-être de Scorsese. Ça, ce côté image percutante qui se choque sans arrêt, c'est un texte très, très, très beau. Hein. C'est un texte tout à fait étonnant, peu connu, et je crois en partie parce que la traduction le rend opaque et lui enlève de sa vitesse, une sorte d'élégance folle. Moi, c'est un des textes de lui que j'ai trouvé le plus admirable, enfin le plus... et d'une esthétique, c'est comme un objet trouvé, en temps qu'il a remonté, qu'il a remodelé. Alors je ne sais pas très bien comment il a travaillé à partir de l'original, mais il en a fait une œuvre vraiment frappante.
Jean-Jacques Lebel.
Burroughs au cinéma, c'est très intéressant, parce que, un peu comme Artaud, vous l'aurez remarqué, Burroughs joue toujours lui-même. Il est incapable de jouer un rôle... On ne peut pas lui donner un personnage à composer, ça n'existe pas, ça. Il est toujours lui-même, avec son costume noir, sa chemise blanche, sa cravate noire, un peu employé des pompes funèbres, le dos un peu voûté, ses lunettes comme ça, perçantes, mais qui vous percent et qui regardent bien au-delà de vous, et généralement son chapeau, et dans sa poche, ou un revolver, ou un couteau. Il était persuadé que, par exemple, à New York, il fallait être armé dans la rue.
Burroughs, un jour, m'avait fait lire une adaptation qu'il avait écrite lui-même, avec un ami à lui qui s'appelait Anthony Bunch, qui était un cinéaste. Une adaptation de Fessenu qui était absolument magnifique, même géniale. Ils n'ont jamais réussi à monter le film. Et pour donner un peu un avant-goût de ce que serait ce film, ils avaient fait un court-métrage en noir et blanc où Burroughs jouait lui-même, un film que peu de gens ont vu d'ailleurs, et qui donnait, je crois, le ton de... Alors c'était une sorte de film noir complètement décalé. Ça ressemblait peut-être en 100 fois mieux à ce que Lars von Trier essaie de faire, c'est-à-dire créer un espèce d'espace imaginaire. Et malheureusement, Cronenberg, lui, qui est un bon cinéaste par ailleurs, s'est complètement planté. Il n'a pas du tout... Il a fait un... Et je crois que la couleur aussi s'adaptait très très mal à ce... C'est une sorte de fantôme, le Festin nul. Et le film de Cronenberg est d'une lourdeur absolue. Et Burroughs s'intéresse aussi au cinéma. Il a fait quelques apparitions dans des films. Drugstore Cowboy, par exemple, il est magnifique. Et je pense qu'il aurait pu faire un grand acteur de second rôle, spécialisé dans les rôles de détective privé, de maître chanteur, de camé, évidemment, d'espion. Non, c'était un type qui avait un rapport avec son corps très étonnant et une manière de s'habiller aussi... à la fois complètement anodine et anonyme et décalée dans le temps et finalement assez spectaculaire. Je vois encore dans le couloir de son hôtel avec son chapeau, son espèce de gabardine improbable, ses pompes pointues de macro, sa lourde canne. C'était une apparition, c'était une sorte de Nosferatu moderne, tout à fait impressionnant. Et malheureusement, le film ne s'est pas fait. Anthony Balch est mort quelques temps après et je crois que c'était un des grands regrets de Burroughs de ne pas avoir réussi à trouver un producteur assez gonflé pour faire un film qui aurait été sûrement passionnant.
The laboratory has been locked for 3 hours solid. I think they're using it for the operating room. The laboratory has been locked for 3 hours solid. I think they're using it for an operating room. Nurse. I can't find her pulse, doctor. Dr. Benway, cardiac arrest, goddammit. He looks around and picks up a toilet plunger. He advances on the patient. Make an incision, Dr. Limp. He says to his appalled assistant, I'm going to massage the heart.
Michel Brodeau.
La trace qu'il peut laisser déjà dans le roman américain, c'est la trace... Je ne crois pas beaucoup aux techniques, hein. Je crois qu'elles sont... Bon, elles ont pris un coup de vieux.
Par les thèmes, peut-être.
Les thèmes. La personne même, déjà, la personnalité de Burroughs, son nom célèbre, sa stature. C'est un homme grand, rigide, austère, très physique de puritain. Avec ça, une homosexualité très affirmée, mais pas du tout folle. Hein, je veux dire, c'était pas la Gay Pride. On avait plutôt l'impression de croiser le pasteur du bled. Mais enfin, je veux dire, il en parlait tout le temps, dans tous ses livres. Et puis, l'usage revendiqué de la drogue, en disant, enfin, son thème principal étant que de toute façon, l'État nous drogue volontairement pour nous maintenir dans une situation d'assouvissement. Ce n'est qu'en se droguant volontairement et en le contrôlant qu'on peut se libérer de l'emprise des pouvoirs de l'État. Et il avait toute une théorie sur le trafic, les narcotrafiquants liés aux banquiers, qui n'est d'ailleurs pas loin d'être prouvé, en fait. Quand on s'aperçoit maintenant, si on regarde de près ce qui se passe en Amérique latine, les liens entre les services secrets américains et les narcotrafiquants, et les contras, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a toute une partie du trafic de la drogue qui est autorisée, permis pour payer des mouvements politiques qui arrangent les États-Unis du Nord. Enfin bon, tout ça n'était pas si parano que ça. Alors ça, c'est la dimension historique légendaire du personnage. Son œuvre, elle est magnifique pour les deux tiers, parce qu'il y a aussi quand même une part de déchets. Maintenant, quant à son influence en France, elle est plutôt symbolique c'est le personnage qui nous touche. Mais on pourrait dire ça aussi d'autres gens, d'Artaud. Est-ce que Artaud a vraiment des descendants? Très peu. Imiter Burroughs, ça n'a pas de sens. On ne peut pas faire de Burroughs. Pas plus d'ailleurs qu'on fait du Céline ou du Proust sans être immédiatement ridicule. C'est parce que ça, tellement c'est gros, tellement ça se voit. Ce sont des gens qu'on n'imite pas. Ils vous donnent une forte envie de les imiter parce qu'ils ont une personnalité très prenante. Rimbaud aussi. Quand on lit du Rimbaud, ça vous tatoue. Mais je ne pense pas que quelqu'un écrive comme lui, en France, en tout cas.
Dr. Lim shrugs and begins the incision. Dr. Benway washes the suction cup by swishing it around in the toilet bowl. Nurse, shouldn't be sterilized, doctor? Dr. Benway, very likely, but there's no time.
Gérard-Georges Lemaire.
Moi, je le perçois comme un écrivain majeur du XXe siècle qui a été un pont, certainement, entre le monde moderniste, pour dire les choses très simplement, mais enfin, le monde des expériences littéraires, celui de Joyce, celui de Pound, celui des surréalistes, celui des dadaïstes, et le monde qu'on qualifie, à tort ou à raison, de postmoderne. C'est vrai que c'est lui qui assurait, un des majeurs, qui assurait ces transitions-là. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui a tranché, déjà, il a tranché dans le ton, dans cette façon qu'il avait extrêmement incisive, violente, sans retenue, d'un érotisme féroce, parfois sordide, mais toujours inventif, ou alors avec une violence qui sans frein. C'est ça qui est aussi très étonnant dans la démarche littéraire de Brault. C'est quelqu'un qui n'a mis aucun frein dans aucun domaine, et aussi avec une représentation du monde qui était apocalyptique. Alors ça, c'est un aspect de la chose, mais le deuxième aspect, c'est que c'est toujours un écrivain qui, contrairement aux apparences, à son désordre inhérent, parce que c'est quelqu'un qui a vécu, je parle pour son travail, dans un désordre absolument hallucinant, a conduit une recherche littéraire d'une grande rigueur, extrêmement exigeante, extrêmement inventive, mais en abandonnant les thèmes de ses prédécesseurs. Alors en fait, il va faire marquer cette rupture avec ce monde-là, mais une rupture qui n'est pas une rupture de défi ou de relégation, mais simplement une rupture d'invention, là encore, de dire voilà, moi je fais autre chose, je passe dans un autre domaine, et qui apporte des ouvertures pour de nouvelles expériences.
Il savait sa place dans la littérature assurée, il savait qu'il avait une niche à lui, que personne d'autre ne lui prendrait, et il n'était sans doute pas le plus grand raconteur d'histoire, bien sûr, bien d'autres avaient cette place avant lui. Il était sensible à des destins, à Rimbaud, oui, Artaud, ou Van Gogh. Il aimait beaucoup, il pensait s'inscrire dans une lignée de maudits. Ou alors Savonarole, Bruno, les gens qui avaient révolutionné la pensée.
You young squirts couldn't lance a pimple without an electric vibrating scalpel with automatic drain and suture. All the skill is...
C'est un écrivain américain, ça c'est indubitable, et c'est parce qu'il a un esprit américain, la mode de pensée américain, mais qui s'est nourri d'une expérience en Europe et en Afrique du Nord, parce que l'expérience de Tangette est fondamentale, parce que c'est là qu'il a fabriqué le festin nu. Mais sans cette expérience européenne, je ne sais pas si l'écrivain Burroughs serait né. Hein, ça, c'est clair que Burroughs fait partie aussi encore de ces grands exemples d'écrivains américains qui ont eu besoin de l'Europe. C'est peut-être le dernier. Il y a eu avant lui des écrivains de toutes sortes, que ce soit Hemingway ou Pound, mais ou Fitzgerald, mais il a fait partie de ceux qui ont eu cette nécessité-là. Sauf que lui, il a pas simplement emprunté à Paris des modèles ou des sujets d'inspiration, il s'est nourri aussi de la littérature européenne en profondeur. Bah, par exemple, parce qu'il y a un épisode peu connu de sa vie, là. Quand il était jeune, il a été un court moment à Vienne. Donc c'est quelqu'un qui s'est intéressé beaucoup à la psychanalyse et il s'est révélé aussi un grand lecteur de Kafka. Et Kafka c'est une chose qui est souvent, très peu souvent soulignée, entre beaucoup dans son mode d'écriture, parce qu'il a un lien pervers, étrange, tout ce que l'on veut, mais un lien évident avec l'humour pince-sourire, l'humour à froid de Kafka. C'est clair que là, il y a un rapport aussi dans l'étrangeté des situations... Oui, la paranoïa, les situations présentées, des solutions insensées, impossibles et impossibles à résoudre. Hein. Et donc, il y a Kafka entre en ligne de compte de manière précise dans l'œuvre de Burroughs, pour donner un exemple, il y en a d'autres.
Bernard Hetzig.
La dernière fois, je l'ai vu chez lui, à Lawrence, dans le Kansas, où il habitait. Parce que je venais de passer un mois dans une fondation en Californie où j'avais été invité, et j'ai décidé en revenant de m'arrêter à Lawrence, parce que d'une part pour le voir, et puis parce qu'il y avait à ce moment-là une exposition de lui et de Brian Gysin qui avait commencé au musée de Los Angeles et qui se terminait au musée de Lawrence. Alors c'était un bon prétexte pour la voir et le voir. Et j'ai bien fait, puisqu'il est mort quelques mois après. Ça, c'était il y a donc 4 ans. Et c'était assez, assez drôle. Il y avait du reste Ginsberg qui était là aussi de passage. Et donc, ça m'a permis de voir où il habitait, comment il était installé, tout ça. Enfin, et c'était assez drôle parce que c'était la fête d'Halloween, juste à ce moment-là. Et donc il avait avec un énorme coquelin sculpté de citrouille, n'est-ce pas, qu'il avait mis devant sa porte, et il attendait le soir donc que les enfants, selon l'habitude, viennent chez lui, sonnent à la porte, et il avait préparé près de la porte toute une série de sucreries, c'était en fait des crânes en sucre, n'est-ce pas, comme ça. Et il était très impatient de voir les gosses venir, ce qui a fini par se faire du reste, mais avec leurs parents, parce que quand même on ne laisse pas à 8h du soir les enfants aller chez Burroughs tout seul comme ça. Et donc c'était assez charmant de voir Burroughs dans cette fête d'Halloween avec tous ses enfants à qui il donnait des crânes en sucre comme ça.
Patrick Bouvet.
Oui, donc il y a quelque chose que j'aime bien moi chez Burroughs, c'est ses scrapbooks, c'est ses livres, ses petits livres, ses petits carnets où il consignait des notes, où il faisait il découpait des journaux, il faisait des collages, il y a pas mal de choses. Moi, il se trouve que c'est quelque chose qui m'avait impressionné et que j'ai un peu repris à mon compte, et ça me sert de carnet de notes où je colle de pas mal de journaux. Donc en recherchant un petit peu dans mes scrapbooks, je suis retombé sur celui de 1997, qui est l'année de la mort de William Burroughs. Et j'avais fait à l'époque, j'avais lu un article dans le journal suite à sa mort, et j'ai refait quelque chose, un peu une sorte d'hommage, quoi. Donc j'ai recollé la photo qui était parue dans le journal, mais j'ai juste rajouté un petit singe sur l'épaule. Chez les junkies, le singe a une signification. Et j'ai repris donc les mots qui composaient cet article sur Burroughs, et j'ai fait un petit poème, pour ainsi dire. Donc je vais vous le lire. Tard le soir, dans une partie, il dégaine sa théorie. Drugstore cowboy, Aztec junkie, l'opéra nu dans un bordel bunker. Black Rider, Burroughs s'enfuit.
William Seward Burroughs, 5 février 1914, Saint-Louis, Missouri, 2 août 1997, à Lawrence, Kansas. Une émission de Patrick Amine. Texte lu par Cécile Tanner, Marie-France Ganzer, Garance Clavel, Jean-Claude Leguet et Benjamin Berton. Ultime parole, les derniers journaux de William Burroughs viennent de paraître chez Christian Bourgois. Équipe de réalisation, Frédéric Changenet, Jacques Taroni.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 mars 2001.
Mm-hmm.